Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. France is back, choose France, c'est en anglais et c'est pour être compris du public visé, c'est-à-dire les milieux d'affaires, les acteurs économiques et investisseurs internationaux. Mais le message est tout de même limpide, choisissez la France est de retour. C'est le message que martèle cette semaine Emmanuel Macron aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos et lundi lorsqu'il a invité 140 dirigeants d'entreprises mondiaux à faire étape à Versailles pour un sommet sur l'attractivité de la France avant donc de partir pour la Suisse. Est-ce une présentation, disons, optimiste de la situation, notamment économique du pays, ou la France est-elle vraiment de retour? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Agnès Benassi-Kéré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, membre du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris 1 et à l'École d'économie de Paris. Et Guillaume Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste au magazine Alternatives économiques, auteur de « La France ne sera plus jamais une grande puissance ». Tant mieux, édition La Découverte. À défaut de se demander si la France est de retour, qui est une formule qui appartient au président de la République, on va poser la question de manière un petit peu plus distanciée peut-être. La France et l'économie française vont-elles mieux, Agnès Benassi-Kéré?
Bon, alors si on regarde les chiffres de croissance, c'est clair que la France va mieux. Le FMI vient d'annoncer donc un taux de croissance pour 2018 de presque 2%. Il faut voir d'où on vient. Hein. Sur 2014-2016, c'est pas si loin, on est à 1%. Et sur 2012-2013, on était à 0,5. Donc c'est incontestablement une amélioration. Maintenant, ça n'est pas un taux de croissance extraordinaire. Et le gros point noir, évidemment, c'est le chômage. Le chômage a diminué, mais il diminue beaucoup moins vite que dans les autres pays européens.
Alors on a eu les chiffres du chômage pour le mois de décembre 2017 aujourd'hui. C'est stabilité, grosso modo, sur toute l'année 2017 et une légère baisse de mois en mois pour la catégorie A.
Oui, alors le chiffre mensuel...
On s'en méfie un petit peu maintenant.
Donc si on regarde les chiffres au sens du Bureau international du travail, qui sont les chiffres
trimestriels...
Le taux de chômage, bon maintenant, le dernier chiffre, je crois, c'est 9,7%. Il est grosso modo sur le déclin, même s'il y a quand même des incertitudes. Et il ne diminue pas très vite par rapport à d'autres pays européens. Et on comprend, enfin, un gros point noir, en fait, c'est la situation des personnes sans qualification, qui s'est énormément dégradée. Je vous donne un chiffre, le taux d'emploi des personnes sans qualification, en 2005, il n'y a pas très longtemps, était de 68%. Alors, le taux d'emploi, c'est le rapport entre les personnes en emploi et...
Et ceux qui n'en ont pas.
Non, pas du tout. Et la population en âge de travailler.
D'accord.
Et non pas la population dite active. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu entre l'emploi et les activités qui ne sont pas sur le marché du travail. Voilà, c'est ça. Donc 68% en 2005, il a chuté à 55% en 2017 pour les personnes sans qualification. Vous comparez ça avec les personnes qui ont un diplôme supérieur, disons Bac plus 2 ou plus, 90%. Le taux d'emploi. Donc, vous voyez, c'est la moitié maintenant. Et là, ça, c'est vraiment dramatique. Et je pense que le point noir pour les années à venir, ça va être cette dimension-là, arriver à remettre les personnes sans qualification, les requalifier et les remettre à l'emploi.
Alors, Guillaume Duval, une prévision de croissance du FMI en hausse, elles ont été rehaussées il y a quelques jours, mais apparemment, une économie française qui crée peu d'emplois, est-ce qu'on peut dire que l'économie française va mieux ?
Oui, l'économie française va mieux. Alors, elle crée aussi pas mal d'emplois. Hein. On a quand même une spécificité par rapport à la plupart de nos voisins. C'est une démographie qui est relativement dynamique. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en Italie, en Espagne, au Portugal, par exemple, il y a 30% de moins de jeunes de 20 à 30 ans aujourd'hui que en 2000. Hein, donc c'est un choc énorme qui est lié notamment à la crise.
Donc plus de monde en France à venir pour absorber pour le marché du travail.
On a plus d'emplois à créer que les autres pour limiter le chômage. C'est une spécificité. Beaucoup de Français pensent que c'est un grand atout pour l'avenir du pays d'avoir plein de gamins. Mais en fait, à court terme, en tout cas, ça coûte très cher. Il faut les loger, les habiller, les éduquer, etc. Ça fait des dépenses privées et publiques supplémentaires. Et d'autre part, à court terme aussi, ça créer plus de problèmes sur le marché du travail. Mais je pense que l'autre problème majeur qui reste, et la politique menée sous François Hollande n'y a rien changé, c'est le déficit extérieur de la France. Hein. Donc la plupart de nos voisins...
La balance commerciale négative. Hein.
Oui, la plupart de nos voisins ont redressé leur compte extérieur et sont devenus excédentaires. La France est le seul pays qui reste déficitaire en termes de compte extérieur au sein de la zone euro. Alors ça n'a pas que des inconvénients, ça veut dire qu'on est, on soutient l'activité de la zone euro, et s'il y avait que des gens comme nous, ça irait sans doute mieux. Mais en attendant, ça veut dire que on a des problèmes de compétitivité qui n'ont pas du tout été réglés par les mesures type CICE, pacte de responsabilité, etc. C'est pas des problèmes de compétitivité qui tiennent avant tout au coût du travail, et le fait de baisser le coût du travail n'y a pas aidé. On a des problèmes d'une autre nature dans ce domaine qui sont lourds, qui sont difficiles à régler, mais pour l'instant ils ne sont pas réglés.
Et un mot que vous n'avez pas prononcé ni l'un ni l'autre pour l'instant dans les problèmes que rencontre la France, la conjoncture française, et pourtant on en a beaucoup entendu parler, mais je pense que vous allez revenir dessus, c'est un déficit d'investissement de l'économie française, Agnès Benassi-Kéré. C'est ce qu'on a beaucoup entendu sur la fin de la présidence Hollande notamment.
Alors l'investissement en France a plutôt bien résisté à la crise par rapport à d'autres pays de la zone euro, même si il a baissé, hein, et notamment par exemple dans les collectivités territoriales, il y a eu une chute de l'investissement. Mais vous pointez là un problème qui est plutôt de qualité de l'investissement, c'est-à-dire qu'en France, on investit beaucoup dans le bâtiment, mais dans les hautes technologies peut-être moins. Et ça a à voir avec la qualification de la main-d'œuvre dont je parlais tout à l'heure, parce que bien, il ne fait pas les mêmes qualifications selon le niveau de complexité des machines qu'on a à utiliser. Mais ça, plus généralement, la productivité en France croît très, très lentement. Et c'est le nœud de l'affaire. C'est à la fois ça qui pose problème pour l'emploi, pour le commerce extérieur et aussi pour le pouvoir d'achat. Quand vous avez une productivité, la productivité, c'est la production par unité de travail. Et donc, quand cette productivité, c'est l'efficacité, si vous voulez, du système productif. Cette efficacité augmente de moins de 1% par an. Et ça veut dire qu'on ne peut pas distribuer de pouvoir d'achat au-delà de 1% par an. Sinon, on va détruire la compétitivité. C'est tout petit comme hausse de pouvoir d'achat. Et donc, on est coincé dans ce petit tunnel où, d'un côté, on devrait donner un petit peu de pouvoir d'achat, de l'autre, pour relancer la demande, et de l'autre, eh bien, on a très peu de marge de manœuvre parce que la compétitivité ne nous permet pas.
Guillaume Nuval, on a longtemps entendu dire que, eh bien, avec les 35 heures, les Français travaillaient peut-être moins que les autres dans des pays européens, mais que la productivité, justement, était plus élevée, plus favorable en France. Et c'est terminé, ça aussi ?
Non, c'est pas terminé. Mais d'abord, sur le fait de travailler moins que les autres, ça a toujours été faux. Les Français travaillent une demi-heure de plus chaque semaine en moyenne que les Allemands, 5 heures de plus chaque semaine que les Néerlandais, à peu près autant chaque semaine que les Anglais. La spécificité en France, c'est qu'on a moins de travail à temps partiel que les autres, et que les gens qui sont à temps partiel chez nous travaillent plus longtemps chaque semaine que chez les autres. Donc c'est d'abord une question de régulation du rapport homme-femme sur le marché du travail pour l'essentiel, c'est-à-dire que les autres, et en particulier les Allemands et les Néerlandais, ont résolu leur problème de chômage en poussant le développement du travail à temps partiel des femmes et à temps très partiel. C'est une solution qui n'est pas acceptable socialement et politiquement en France, et c'est très bien comme ça. Donc il faut faire d'autres choses, et on a fait d'autres choses, notamment les 35 heures. Pour autant, on reste malgré tout, même si ça progresse lentement, mais ça progresse aussi lentement chez les autres, on reste un des pays les plus productifs au monde, et c'est même plutôt notre problème. Si on était aussi peu productif que les Allemands aujourd'hui, on aurait 3 millions d'emplois en plus. Hein. Donc un Français a produit l'an dernier 80 000 euros de richesse, qui est un emploi.
Un Français qui travaille à temps plein.
Et un Allemand qui a un emploi, il a produit 72 000 euros de richesse. Donc, si on était aussi peu productif que les Allemands, on aurait 3 millions d'emplois en plus. Le problème, c'est qu'on peut pas faire comme les Allemands pour être moins productif, puisque c'est pas acceptable. Mais c'est pas le problème que la France soit pas productive. Mais c'est vrai que cette productivité progresse peu. C'est aussi le résultat des politiques publiques. Hein. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui veut que la productivité progresse peu parce que c'est un moyen, comme on dit, d'enrichir la croissance en emploi. C'est-à-dire d'avoir plus de croissance, plus d'emplois pour chaque point de croissance.
Agnès Benassi-Kéré, je vous ai vu au début de l'intervention de Guillaume Duval faire un petit peu la moue. Vous voulez réagir?
Non, mais ça va parce qu'en fait, on est d'accord, je crois. Si on compare le temps plein, effectivement, le nombre d'heures de travail dans l'année est plus faible en France qu'en Allemagne, je crois. Mais si, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup plus d'emplois à temps partiel en Allemagne qu'en France, eh bien, c'est là qu'on se rattrape, si vous voulez.
Les fameux mini-jobs de l'Allemagne. Vous avez commencé, Guillaume Duval, à parler de la politique économique du gouvernement. Combien est-ce qu'il faut de temps pour qu'une politique économique fasse effet? Est-ce que les décisions qui ont été prises par le gouvernement sur le marché du travail récemment, est-ce que ces décisions vont avoir un effet immédiat ou combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour que ça fonctionne, si ça fonctionne?
Ou elle risque d'avoir un effet immédiat assez rapide et assez négatif sur l'emploi, oui. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles auront plus tard des effets plus positifs? Non, ce qui compte surtout, c'est qu'il faut des politiques équilibrées. C'est ça qui est toujours très compliqué à mener. C'est plus facile de critiquer pour un journaliste que pour un politique de les mener, mais il faut des politiques qui agissent à la fois sur la demande et sur l'offre. C'est-à-dire que l'idée qu'en abaissant le coût du travail, on va s'en sortir est stupide et ne marche jamais. C'est-à-dire que abaisser le coût du travail, ça consiste, si on doit faire la course avec les Roumains et les Polonais pour avoir du travail et des emplois en France, on s'en sortira jamais. Donc il faut certes être compétitif en coût, mais il faut aussi avoir un plus du côté de la qualité de ce qu'on fait par ailleurs. Et cette qualité, elle vient forcément par des dépenses publiques élevées en termes d'infrastructures. Il faut avoir des infrastructures de qualité. Et un des problèmes qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que justement l'investissement public, en tout cas, a beaucoup baissé en France. Alors on avait beaucoup investi précédemment, ça peut durer quelques années, mais à terme, ça peut poser des problèmes. Et il faut investir aussi en éducation. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, on est un des pays qui paye le plus mal ses profs et qui entasse le plus d'élèves dans ses classes, en tout cas dans le primaire, par exemple. Et ça, c'est un gros problème. Si on est amené, parce qu'on baisse le coût du travail, à diminuer nos dépenses d'éducation, on n'aura pas gagné.
Agnès Benassi-Kéré,
j'ai un conflit d'intérêt puisque je suis prof, je ne vais pas parler de ça. sur le coût du travail, on ne fait pas la course avec les Roumains. Hein. Clairement, on fait la course avec les Italiens qui ont réduit leur coût du travail plus que nous, enfin qui l'ont augmenté moins vite que nous. Et les Espagnols qui sont en train de nous prendre des parts de marché. Donc je pense que ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Maintenant, je suis d'accord sur le fond, c'est-à-dire que ce n'est pas en baissant le coût du travail qu'on résoudra le problème de la compétitivité et de l'emploi en France. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un rebond de la croissance et tout de suite, les chefs d'entreprise disent « Ah, on a des difficultés à embaucher, à trouver les qualifications. » Donc il y a un problème majeur de qualification, ça va au-delà, c'est pas simplement l'éducation générale, hein, c'est surtout la formation professionnelle des jeunes et puis des moins jeunes.
C'est le prochain grand dossier du gouvernement.
Alors ça, malheureusement, vous disiez, est-ce que ça prend du temps? Ça, malheureusement, ça prend du temps. Il y a d'autres mesures qui peuvent être plus rapides. Bon, les réformes fiscales peuvent avoir un effet rapide. Dans les ordonnances, tout ce qui concerne les entreprises étrangères, on parlait de l'attractivité, voilà. Les investisseurs étrangers ont été rassurés par les mesures qui ont été prises, notamment pour les prud'hommes. Donc le fait donc de sécuriser ce qu'ils risquent de perdre en cas de licenciement non justifié. Et puis le périmètre d'appréciation pour les difficultés économiques. Avant, si vous voulez, vous étiez une multinationale, vous ne pouvez pas licencier en France parce que l'entreprise se porte bien en Chine. Enfin, c'est grosso modo, c'est presque ça qu'on disait aux entreprises. Donc c'était... Et là, ce qu'il faut aussi avoir en tête, moi j'ai vu beaucoup d'investisseurs étrangers, et c'est pour ça que je pense que Macron a raison de surjouer, de faire énormément de marketing, parce que la vision des investisseurs est toujours décalée de quelques années par rapport à la réalité du pays.
Le temps voilà. Qu'on décide un investissement et qu'il devienne réalité, il faut
un peu... Non, c'est pas ça. C'est l'image que les investisseurs ont de la France.
Il faut que ça infuse un petit peu.
Exactement. Et ça infuse plusieurs années. Donc, je pense que le fait de faire énormément de communication, ça peut nous paraître bizarre, parce qu'on est des Français, on est très sceptiques toujours, on est toujours assez rationnel. Mais en fait, ça a une justification de ce point de vue-là.
Qu'est-ce qui retient l'attention des investisseurs internationaux, Guillaume Duval? Pourquoi Emmanuel Macron insiste beaucoup sur cet aspect attractivité ?
Oui, enfin, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que attirer des investisseurs internationaux, c'est pas le bout du bout. Hein. C'est-à-dire que s'il s'agit de vendre le pays au plus offrant et de plus être capable de faire autre chose que de demander aux gens de quémander pour qu'ils viennent construire des usines tournevis chez nous et qu'ils s'en aillent pas chez le voisin en étant moins cher que le voisin, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Les pays où il y a plutôt moins d'investissements étrangers, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est des pays qui s'en sortent mieux. Donc le fait d'attirer beaucoup de capital étranger est plutôt en général un mauvais signe pour un pays, contrairement à ce qu'on imagine d'habitude. Après, effectivement, il faut, dans le contexte de la mondialisation, il faut aussi avoir des entreprises étrangères, mais la France est déjà plutôt très bien placée là, sur ce plan. On a beaucoup de multinationales qui sont chez nous parce que on a des bonnes infrastructures, on est bien placé géographiquement au sein de l'Europe, de l'Europe continentale. Je ne pense pas qu'il faille faire des pieds et des mains absolument pour avoir tous les McDonald's, toutes les multinationales étrangères. Notre problème, c'est plutôt d'être capable d'avoir une industrie et des entreprises françaises qui se développent.
Néanmoins, c'est le choix d'une France ouverte sur l'extérieur qui a été fait par défaut ou pas en mai 2017.
Hein, si vous voulez, la Grande-Bretagne est complètement désindustrialisée, ne pèse plus, etc. Toutes les grandes entreprises britanniques sont étrangères. Bon, on peut vouloir ce genre d'avenir, mais c'est pas forcément un avenir très prometteur.
Agnès Benassi-Kéré, vous êtes d'accord
Là, je diffère un peu. Quoi. Alors, la France a des grandes multinationales qui réussissent très bien à l'étranger. Donc la France a un gros pouvoir d'investissement à l'étranger. Mmh. Et en réalité, les revenus qui nous reviennent des activités à l'étranger effacent à peu près la moitié du déficit commercial. Il faut quand même le savoir. Donc ces entreprises...
Le déficit commercial énorme dont on parlait en début d'émission, il est quand même compensé par la dynamisme des multinationales françaises.
Alors, donc ça doit être réciproque. Donc il faut accueillir aussi les entreprises étrangères. Là où je suis d'accord, c'est de ne pas faire des dispositifs particuliers pour les entreprises étrangères, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient mieux traitées que les entreprises françaises, on est d'accord. Mais en tout cas, mettre un peu plus de lisibilité dans notre système, on va parler de la réforme des retraites peut-être, le fait qu'on ait 35 régimes de retraite, ça n'aide pas à la lisibilité pour des investisseurs étrangers et même pour des individus qui voudraient s'installer en France. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faut accueillir à bras ouverts les entreprises étrangères comme des entreprises françaises. Les entreprises étrangères, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une partie très importante de l'emploi en France. Beaucoup de gens travaillent dans des entreprises qui sont directement ou indirectement étrangères. Et donc, il faut, ça fait partie de notre activité économique sur le territoire.
Guillaume Duval, le discours suffit-il ? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ou est-ce que les investisseurs attendent des actes et leurs effets, surtout ? Ça prend beaucoup de temps ça, pour infuser ce genre de discours ?
Oh, c'est surtout que c'est pas simplement le discours français qui compte, c'est ce qui va se passer au niveau européen en particulier. Hein. Donc c'est l'Europe qui peut être attirante et qui peut être dynamique économiquement, en particulier en termes de politique industrielle. Si on veut reprendre pied sur le terrain du numérique, si on veut reprendre pied sur le terrain de la high-tech en général, c'est à travers une politique industrielle européenne que ça se joue. Donc là-dessus, Emmanuel Macron a aussi un discours. Hein. Donc il ne prétend pas que la France seulement est de retour, mais que l'Europe doit l'être. On va voir cette année s'il réussit à le traduire en acte. C'est pas forcément gagné, compte tenu notamment de ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui et de l'incertitude, mais aussi ce qui se passe en Italie et des incertitudes politiques qu'il peut y avoir dans d'autres pays.
C'est vrai ça, Agnès Benassi-Kéré, la politique économique d'un gouvernement, est-ce qu'elle est si importante dans la mesure où les grandes tendances économiques sont continentale, mondiale, la politique monétaire est faite à Francfort. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une efficacité à la marge ?
Alors c'est drôle parce qu'en France, on a un tropisme pour la macroéconomie. Donc on considère que la politique économique, ça consiste à fixer les taux d'intérêt et le déficit budgétaire, grosso modo. Et en fait, c'est pas du tout la vision des autres pays autour de nous. Parce que là, le tropisme inverse. Pour eux, ce qui est très important, c'est assurer la concurrence de manière à faire émerger des nouvelles entreprises plus productives qui vont progressivement grossir. C'est à s'assurer que... les infrastructures permettent justement à toutes ces entreprises de se déployer. C'est la politique industrielle. Alors je ne sais pas très bien ce que c'est que la politique industrielle aujourd'hui. Il y a aussi la politique de la ville. Il y a la politique. Je suis d'accord sur le fait que l'Europe doit être dynamique au sens, par exemple, dans le digital. Il faut faire absolument un marché unique numérique, sinon on ne va pas attirer des géants du numérique.
Merci Agnès Benassi-Kerry, merci à vous également Guillaume Duval d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et aujourd'hui à la réalisation Quentin Bresson. Un salut particulier aux équipes techniques de RFI parce que si vous nous écoutez depuis la mi-journée, vous vous êtes rendu compte que votre radio a vécu une journée assez compliquée et on a travaillé dur pour pouvoir être à l'antenne. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour.